les podcasts de Radio Vatican.
Le Tchad est-il un géant au pied d'argile? Certes, depuis 2013, c'est sur l'armée tchadienne que s'appuie la France pour combattre les groupes armés au Mali notamment. Le siège de l'opération Barkhane est d'ailleurs installé à N'Djamena. Et face à Boko Haram, autour du lac Tchad, ce sont encore les soldats tchadiens qui sont en première ligne. Pourtant, la sécurité du pays est fragile. Preuve en est l'enlèvement jeudi 23 mars 2017 d'un ressortissant français dans l'est du pays. Il s'agirait d'un ancien militaire désormais employé d'une société minière. Selon le gouvernement tchadien, il serait désormais détenu au Soudan voisin. Toutes les frontières tchadiennes sont sous pression, explique Jérôme Tubiana, chercheur pour l'ONG Small Arms Survey et spécialiste du Tchad. Il revient sur les enjeux sécuritaires et diplomatiques de l'armée dans le pays.
La région où a eu lieu la prise d'otage, elle a été touchée entre 2005 et 2009 par des conflits intercommunautaires, en fait, extrêmement violents, qui étaient en partie liés au conflit du Darfour. Et le gouvernement tchadien et les chefs traditionnels de la région ont été très actifs ces 8 dernières années pour essayer de ramener la paix. Et ils se sont peu à peu aperçus que ça restait extrêmement difficile, que les conflits fonciers pour la terre restaient extrêmement délicats à résoudre, notamment parce que la guerre au Darfour continuait et qu'il y avait cette tentation parmi les jeunes arabes tchadiens qui pouvaient très facilement aller se faire recruter comme des miliciens au Darfour et qui, malgré la volonté de paix à l'intérieur du Tchad, maintenaient une forte tension, notamment sur la zone frontière entre Tchad et Soudan. Pour faire face à cette guerre, le gouvernement soudanais maintient une option quasi uniquement militaire, qui passe notamment par un recours massif à des milices arabes. Donc ça, potentiellement, ces milliers d'éléments tchado-soudanais, très bien armés et qui ont participé à des violences massives au Darfour, peuvent représenter à long terme un danger s'ils venaient à revenir au Tchad.
Mais le Tchad est aussi menacé à ses frontières nord, vers la Libye, et ouest, autour du lac Tchad.
Il y a effectivement du danger à la frontière nord, avec une Libye dans laquelle il n'y a maintenant plus d'État. Cette absence de l'État a permis à des rébellions tchadiennes de trouver asile en Libye. Mais ces rébellions sont très divisées et perdent parfois un petit peu le sens de leur cause politique pour s'adonner à des activités aussi variées que du mercenariat au service de factions libyennes ou simplement du banditisme. Et après, bien sûr, il y a le problème du lac Tchad qui concerne là quatre pays, donc Tchad, Nigeria, Niger et Cameroun, avec le groupe djihadiste Boko Haram qui est présent dans la zone et qui a nécessité la faiblesse des autres armées autour du lac Tchad a un petit peu obligé l'armée tchadienne à intervenir sur les territoires du Niger, du Nigeria et du Cameroun, qui a porté un coup à Boko Haram en tant que groupe armé, mais le groupe reste dangereux. Après, il y a aussi au sud du Tchad le problème centrafricain qui n'est pas tout à fait résolu, puisque donc il y a encore des groupes armés en territoire centrafricain qui opèrent, y compris aux frontières tchadiennes.
Parmi ces groupes, il y a celui des Peuls notamment. Quelle est leur situation ?
En Centrafrique, les Peuls ont participé à des conflits. Ils ont depuis toujours traversé ces frontières, les frontières notamment celles du Tchad et de la Centrafrique. Mais la guerre civile en Centrafrique depuis 2013 a aussi entraîné des persécutions contre les Peuls et les musulmans en général et un certain nombre de communautés qui sont accusés d'être étrangers à la Centrafrique, malgré une longue histoire commune. Et donc, les Peuls ont aussi de plus en plus envie d'exprimer leur propre cause, en fait, dans les différents pays où ils sont présents dans la région. Et parfois, y compris par le recours aux armes. Donc, il y a un risque, surtout dans le futur, pas seulement pour la Centrafrique, mais aussi pour le Tchad, le Niger, etc.
Il y a cette question aussi de gisements aurifères qui ont été trouvés dans le centre du pays, avec des importants mouvements de population, avec le Soudan qui inquiète.
Pas seulement dans le centre, mais aussi dans le nord du pays, en particulier à la triple frontière entre Tchad, Niger et Libye. En soi, ça a eu aussi des conséquences positives et ça a fait que beaucoup de communautés, de familles ont pu trouver des ressources alors qu'elles étaient dans des situations très précaires. Mais ce qui inquiète, c'est que souvent dans les sites d'orpaillage, il y a eu des éléments armés et d'anciens rebelles. Il y a eu aussi des conflits entre communautés pour l'or. Ceci dit, beaucoup plus au Soudan qu'au Tchad. Ce qui peut inquiéter les pouvoirs en place, comme le pouvoir tchadien, c'est qu'il y a eu, dans les différents sites d'orpaillage dans toute la région, aussi bien des anciens rebelles tchadiens que des déserteurs de l'armée tchadienne, qui se sont donc trouvés avec de nouvelles ressources. Donc le pouvoir pouvait craindre que de nouvelles rébellions se forment sur les sites d'orpaillage. Mais ceci dit, jusqu'à maintenant, cette crainte ne s'est pas matérialisée et les orpailleurs ont surtout travaillé à essayer de tenter leur chance et de trouver de l'or, parce que c'est quand même une activité assez hasardeuse.
Face à toutes ces menaces, finalement, est-ce qu'on ne peut pas craindre que le Tchad se reconcentre sur son territoire national et se retire un petit peu des opérations qu'il avait dans les pays extérieurs ?
Oui et non. D'abord parce que ces opérations bénéficient beaucoup au pouvoir tchadien. Elles lui permettent aussi de pouvoir obtenir, ce qui n'est pas forcément évident en soi, un soutien sans faille de la France. Et le Tchad en a besoin, pas seulement diplomatiquement, mais aussi économiquement, parce que à cause de la baisse des cours du pétrole et de son économie qui, ces dernières années, a été quasi totalement dépendante du pétrole, donc le Tchad a besoin de soutien extérieur pour alléger sa dette. Et ensuite, le Tchad a utilisé son armée un petit peu comme un outil diplomatique. C'est cette qualité militaire qui est assez rare sur le continent, qui a permis au Tchad d'obtenir une reconnaissance diplomatique assez extraordinaire pour un petit pays sur le continent, puisque aujourd'hui, le président tchadien Idriss Déby est le président en titre de l'Union africaine, que son ancien ministre des Affaires étrangères est devenu le président de la Commission de l'Union africaine. Donc c'est cette armée qui est devenue un outil diplomatique pour obtenir cette reconnaissance assez unique. Et enfin, l'autre chose, c'est qu'à part le Mali, qui ne touche pas directement aux frontières tchadiennes, toutes les autres interventions du Tchad à l'extérieur visent avant tout à sécuriser le territoire justement et à empêcher que des groupes armés, que ce soit des groupes rebelles ou un groupe djihadiste comme Boko Haram, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, viennent au Tchad.
L'armée tchadienne est réputée pour son efficacité. Qu'en est-il vraiment de cette réputation ?
Oui, l'armée tchadienne est efficace. Elle est un peu trop homogène, c'est ce qu'on lui reproche souvent. Elle est en grande partie, notamment les forces les plus efficaces, les forces d'élite. La garde présidentielle sont essentiellement composées de membres de l'ethnie du président. Ça n'est pas en soi un problème par rapport à son efficacité, mais c'est un problème par rapport à sa gestion, par exemple, de conflits ethniques à l'intérieur du Tchad. Elle est souvent accusée de favoritisme, d'injustice envers les communautés, les civils qui n'appartiennent pas à l'ethnie du président. Le problème que rencontre l'armée tchadienne, c'est pas uniquement des problèmes ethniques, c'est des problèmes par exemple de salaires qui sont pas payés, d'éléments qui sont insatisfaits par rapport à leur équipement, etc. Donc ça, c'est des problèmes que l'armée tchadienne a rencontrés, y compris dans ses interventions extérieures, par exemple au Mali, où il y a eu régulièrement des défections et des mutineries de la part d'éléments qui n'étaient pas vraiment satisfaits par la manière dont ils étaient traités, en fait.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.